complètement. C'est le temps des prises. Allez, allez, on continue. Alors, je lis vos messages, là, c'est un truc de ouf.
Attends, il y a un mec bizarre, là. Je crois qu'il fait du stop, là.
Vas-y, on s'arrête.
On s'arrête ?
Vas-y, on va le prendre, ouais.
Pause café avec Gabi. Bonjour Gabi.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 23 novembre. Pause café, ça a commencé. Donc cette semaine, vu que j'ai le bac de sport, nous allons que faire une rubrique de sécurité aérienne. Donc nous allons répondre à qu'est-ce qui se passe si un oiseau se met dans la turbine du moteur quand un avion décolle.
Si un oiseau se met dans la turbine du moteur, c'est ça?
Exactement, ça s'appelle un bird strike en aviation.
Justement, ben, tu vas tout nous expliquer.
Eh ben, par rapport à cet événement qui s'appelle un bird strike qui arrive environ allez, deux ou trois fois tous les un ou deux mois, donc une fois par mois, quoi, en gros. C'est un événement qui est assez rare, mais qui est tout de même dangereux selon la taille des oiseaux. Donc en gros, dans ce cas-là, en dépendant de la vitesse de l'avion à laquelle l'oiseau va être aspiré dans le réacteur, le commandant de bord va décider de stopper le décollage, ça s'appelle un rejected take-off. Du coup, l'avion va mettre les freins à fond et tous les systèmes de freinage possibles pour freiner avant la fin de la piste. Je rappelle que ces données ont été calculées au préalable lors de la préparation de vol. Et puis finalement, à continuation, si l'avion a déjà dépassé la vitesse de rotation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il n'a plus d'espace pour freiner par rapport à la longueur de la piste, alors il doit décoller avec un seul moteur, voire zéro, s'il y a un oiseau de chaque côté qui s'est pris le moteur et qui a fait arrêter celui-là. Donc ça serait le cas le plus compliqué et notamment le plus dangereux. Alors rassurez-vous, il y a certaines vitesses de rotation qui vont permettre d'avoir une marge de sécurité pour pouvoir prendre un peu quand même d'envol et essayer de rattraper comme on pourra et de faire une manœuvre qui c'est un peu comme un demi-8 en fait. Et on revient de la piste du même sens dans lequel on a atterri. Alors ce serait une manœuvre très 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 complexe qui arrive très très peu souvent. Et sinon finalement, pour éviter ces cas-là, dans tous les aéroports il y a des falconiers qui en fait se chargent d'avoir des fusils en fait ils se trimballent autour de l'aéroport en fusil, et c'est des fusils qui au lieu de balancer des balles balancent des, en fait c'est des petites boules qui explosent et ça fait peur en fait, c'est du bruit,
c'est juste pour leur faire peur.
Exactement,
en fait.
Donc en gros comme ça ils vont permettre de faire peur aux oiseaux et aussi que ces oiseaux partent. Mais en plus de ça, le fauconnier s'appelle comme ça parce qu'ils entraînent des faucons, qui ces faucons vont être entraînés pour chasser et éloigner les oiseaux. Donc comme vous pouvez voir, c'est tout un écosystème hein, au sein des aéroports. C'est un système très complexe, notamment pour la sécurité lors du décollage, qui est un phénomène très 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 sérieux.
Eh bien merci Gabi pour toutes ces explications. Et nous allons terminer avec la remise des diplômes du BIA qui a eu lieu donc mardi dernier. Tu y étais, Gabi ?
Eh ben oui, j'y étais pour, comme je l'ai dit la semaine dernière, présenter mon parcours au niveau de l'aviation, donc le parcours qui m'attend après le bac. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais être pilote, donc voilà, ça va être ce parcours-là que j'ai choisi. C'est ce parcours-là que j'ai choisi et notamment que j'ai présenté lors de cette remise de diplôme. Anne, c'est parti.
Donc depuis tout petit, j'étais passionné d'aviation. Vers 10 ans, j'ai fait mon premier vol avec instructeur. Et puis finalement, quand j'ai eu la grande nouvelle de que le BIA se faisait au LFB, ben je me suis dit, il faut que j'y aille. J'ai fait mon année de BIA maintenant il y a 2 ans, quand j'étais en seconde, que j'ai eu avec succès. Et maintenant, je me retrouve en terminale en me disant où est-ce que je vais aller après mes études au lycée et où est-ce que je vais faire la licence de pilote. Donc en gros, pour devenir pilote, vous avez différentes méthodes. Alors la plus typique, la plus classique, ce serait l'ATPL, donc c'est la licence de transport de pilote. Enfin, c'est Air Transport Pilot License. On peut le faire Whitetail, soit il y a d'autres licences, comme celle du MPL, ce serait Multi-Crew Pilot License. Et c'est les licences que proposent normalement les programmes cadets de certaines compagnies aériennes. Donc je vais justement vous parler de mon cas. Donc dans mon cas personnel, mon désir était de faire Oxford Aviation. Donc c'est une école qui se situe à Oxford, en Angleterre. Et en gros, là-bas, comme EasyJet, c'est une compagnie aérienne anglaise, ils ont commencé depuis l'année dernière à faire leur programme cadet là-bas. Cet été, je me suis rendu pour passer des examens. et du coup essayer de faire mon MPL avec eux. Alors les bénéfices, ça serait du coup, je paye une partie de ma licence qui serait MPL, et puis après, en contrepartie, EasyJet me financerait le type rating. Bon, le type rating, c'est quand vous avez votre licence, vous allez aller dans différentes compagnies aériennes, mais chaque compagnie aérienne va voler les différents modèles d'avions, donc il va falloir vous former pour un modèle d'avion spécifique. Donc dans le cas d'EasyJet, ça serait la 320 pour les connaisseurs. Et donc après, on peut travailler quelques années pour EasyJet, notamment 5 ans. Donc ça, c'est mon parcours que je vais faire du coup l'année prochaine. Voilà.
Eh bien, merci Gabi donc pour cette explication de ton parcours BIA. Gabi, futur pilote. On écoute un jeune étudiant et également le capitaine Hugo Noël.
L'année globale dans un salaire, on a eu 365 élèves cette année, ce qui était quand même beaucoup pour nous, pour notre petite structure. Et on a 95,6% de réussite. À Paris, il y en a donc 268 élèves, ils sont à 94% de réussite. En province, ils sont 36 et ils ont 91% de réussite. Et à l'étranger, vous êtes sur 100%. Voilà. Donc, félicitations à vous tous. Donc là, c'est vraiment pour vous donner un aperçu donc, des résultats en général. Et on est très, très fiers que vous pionniez quand même des BIA à l'étranger, parce que vous êtes dans les premiers à faire le BIA à l'étranger, d'avoir autant de réussite, malgré le fait que vous deviez partir dans un autre établissement que vous ne connaissez pas, que ça engendre de la fatigue. Et donc, on est vraiment très, très fiers. Pour cette année BIA, vous avez peut-être entendu parler, c'est le stage English Live Air Show. On a réussi à en organiser deux cette année, donc à Paris. On a eu 30 participants. À Barcelone, il y en a déjà eu qui ont été organisés, mais l'année précédente. Et on espère que l'année prochaine, on va réussir à motiver du monde. Et peut-être que vous ferez partie justement de ces personnes-là. C'est un stage dans lequel vous allez être pleinement immergé en anglais. Vous allez être encadré par des pilotes de ligne, des profs d'anglais. Et pendant 4 jours, de 10h à 18h, vous allez faire que parler en anglais. Vous allez devoir faire des mises en situation, des petites scènes de théâtre, etc. Et là, vraiment aller plus vers les métiers de l'aéronautique et leurs caractéristiques. On a organisé aussi 250 vols BIA. Et il n'y a que des photos de vous, hein. Attention. Il nous en reste encore 70 à faire pour tous les élèves BIA qui sont en formation. Donc cette année, on a opté vraiment pour essayer de faire des vols locaux, donc avec un aéroclub de proximité, Sabadell, pour ceux qui ont volé. C'est avec des avions espagnols, le pilote étant français. Le problème, c'est qu'on a signé des accords de partenariat, mettre en place des créneaux de vol, choisir les avions et mettre en place tout ça. Ça a pris beaucoup de temps, donc vous l'avez subi d'une certaine manière, du fait que vous avez fait vos vols plus tard. Il y en a certains encore qui vont faire leur vol. Vous êtes 3, donc tant mieux parce qu'on s'y attendait. Mais pour ceux qui ont fait leur vol, j'espère que vous avez apprécié ce moment, qui est quand même un peu aussi un moment unique pour vous. C'est que dans le cadre du BIA que vous avez pu faire ce vol en tant qu'élève aux commandes. Et on espère que vous avez tiré vraiment une expérience, vous êtes enrichi personnellement.
Alors effectivement, je vous félicite parce que vous avez beaucoup de sollicitations. Quand on est en seconde, on ne sait pas trop où on va. On vient faire des cours de 17h, 45, 18h jusqu'à 20h, donc c'est du travail en plus. Mais normalement, l'aviation, ça va vraiment vous faire prendre de la hauteur. Normalement, c'est ce que ça a fait. Quand vous êtes en vol, vous voyez le monde d'une façon différente. Et vous avez au moins gagné ça dans cette expérience de BIA. Au-delà du diplôme que vous allez recevoir, c'est un diplôme officiel. Donc, le BIA, c'est effectivement une première approche qui vous permet de prendre de la hauteur. Il y a la suite pour ceux qui veulent continuer. Vous avez pu constater probablement que, et c'est peut-être que le début, qu'effectivement, on peut être pilote, mais qu'il y a plein d'autres métiers que l'on peut faire dans l'aviation, qui vont toucher les avions. Il faut les concevoir, il faut les modifier, il faut les entretenir, il faut les maintenir, il faut les faire voler avec des personnels de cabine, avec des pilotes, avec des contrôleurs aériens, etc. Donc il y a un après BIA. Vous avez vu un petit peu l'éventail des connaissances qu'on va vous demander. Le BIA, c'est de l'initiation aéronautique. Et bien pour les gens qui vont aller plus loin, on va retravailler ces matières que vous avez déjà vues, avec évidemment, notamment pour le métier de pilote, du vol en parallèle, mais bien sûr de manière beaucoup plus approfondie.
Et voilà, c'est terminé pour Pause Café.